Pavel and Aerosnop. Un projet né à l'initiative de deux frères, Pavel et Nathan. Rencontre avec Pavel.
On est tous les deux musiciens, nos parents sont musiciens, donc voilà, ça s'est fait assez naturellement. Moi j'étais au conservatoire à Paris au CNSM, et puis en fait l'envie de faire de la pop c'était depuis l'adolescence. Et donc voilà, en fait ça s'est fait tout naturellement, on a commencé à enregistrer, suite à quelques tournées j'ai acheté un home studio, on a commencé à bidouiller des trucs et tout. Et au fur et à mesure le travail s'est affiné, et on a commencé à attirer l'attention de pas mal de radios, de promoteurs, d'organisateurs de concerts, et voilà, donc ça ne cesse de grandir maintenant. En fait. Donc c'est parti voilà, de mon frère et moi, et maintenant il y a plein de musiciens qui gravitent autour.
Alors travailler avec son frère, comment ça se passe ?
Ça se passe très bien. Actuellement, moi je suis musicien professionnel, lui il est en médecine, en deuxième année en médecine, et donc en fait il est plus présent sur tout ce qui est la partie studio, tout ce qui est enregistrement, voilà, il fait les finalisations, c'est lui qui fait les mixages, parce que j'aime beaucoup la manière dont il entend les morceaux, etc. Et puis ensuite sur scène, je suis rejoint par des copains soit du conservatoire, là en ce moment on tourne beaucoup avec deux amis qui sont au conservatoire, donc en fait ce sont souvent des musiciens classiques qui se greffent et qui font aussi de la pop, qui sont Extra, Tom La Follée et Valentin Dubois, et à côté on a aussi un second, voire qui prend aussi les premières guitares, Oscar Siefried, qui est au centre des musiques actuelles de Didier Lockwood. Donc on a que du top niveau qui tourne avec nous, et c'est vraiment génial. Donc il y a plein de musiciens qui se greffent. Je joue aussi avec Dimat Sepkin, qui est un violoncelliste sur Paris. Et donc en fonction des dates, etc., on adopte un peu les sets et on propose des programmes assez variés qui passent de duo à trio à quatuor et qui prennent des couleurs différentes. C'est pour ça qu'on est invité parfois par des festivals même classiques qui souhaitent avoir quelque chose d'autre que de la musique classique, où on retravaille un peu des chansons pop, etc. Et parfois on est invité par des festivals rock. On en a fait la première partie des Frères de la Vega, des choses comme ça. Donc voilà.
Pavel en Aerosnop, pourquoi ce nom ? Quelle signification ?
C'est secret. Aerosnop, c'est juste le pseudo de mon frère, en fait. On a commencé à deux et pour l'instant, on garde le nom Pavel and Aerosnop.
Et on n'a pas le droit de savoir pourquoi ?
Non, c'est un secret. Premier qui devine, je lui paie un café.
Alors, vous jouez de la pop, du blues, du rock. Comment est-ce que vous pourriez définir votre musique ?
On essaie de faire de la bonne musique. Déjà, c'est probablement le critère numéro un.
C'est quoi de la bonne musique ?
C'est un truc qui, je pense, arrive à vous saisir au niveau du cœur et au niveau de la tête, simultanément. Donc, je crois que c'est important qu'il y ait ce côté de, pas forcément dansant, mais quelque chose voilà, qui est ni rythmique d'ailleurs, mais quelque chose qui vous saisisse réellement, que ça soit intuitif, et qu'ensuite on ait envie de la réécouter, la chanson. Je pense que c'est les deux critères qui sont assez importants. Voilà, d'être saisi. Moi, il y a des chansons comme ça, par exemple, de Queen, où je vais pas tout de suite, je suis un grand fan du groupe Queen, ou Police, ou autre. Et il y a des chansons que j'écoute. À la première écoute, il y a quelque chose, mais j'ai pas forcément été fan, et c'est au fur et à mesure, avec le temps, qu'elle m'accompagne, et elle accompagne la personne quand elle grandit, en fait. Donc, je crois que c'est une définition très approximative, mais c'en est une d'une bonne chanson pour nous, d'une bonne musique, en fait.
Et du coup, vous proposez de la bonne musique, différents styles musicaux ?
Exactement, on fait et de la pop, et du blues, et du rock, et de la folk, et tout ce qui nous plaît. Et du classique, on fait beaucoup de classique aussi. Il y a la page YouTube aussi, Pavel and Aerosnop, donc tout ce qui est réseaux sociaux, c'est blindé, vous pouvez écouter, il y a plein de styles différents. On a sorti un EP qui est très The Take-Off, c'est le décollage en anglais, et bon, il est très inspiré par des groupes comme Police ou U2, etc. Donc ça, c'est très rock. À côté, on a plein de singles qui sont sortis, qui sont beaucoup plus folk, il y en a qui sont même inspirés par un peu... Je fais pas trop de chansons françaises, mais le premier titre que j'ai écrit en français était fort inspiré par Un grand amour pour Cabrel, donc c'est quelque chose de vraiment guitare acoustique voix, donc il y a plein de sujets différents, en fait.
The Take-Off, c'est le nom du premier mini-album de Pavel and Aerosnop. Aux différentes influences musicales, Pavel nous parle des groupes qui l'inspirent.
Il y a du Queen, il y a Beatles, il y a Police, il y a Cabrel, il y a Bach, il y a Rachmaninoff, il y a les guitaristes en jazz manouche, il y a plein de trucs, quoi. Je pense que oui, le groupe, on peut vraiment dire que c'est Sting, John Mayer, Jamie Cullum. On va dire ces trois artistes-là qui sont des influences majeures en termes de composition probablement, mais bon, on peut pas réduire à ça, en fait.
Et alors, c'est les mêmes influences pour votre frère ?
On est très proches. Il me fait pas mal découvrir d'artistes aussi actuellement, c'est Jacob Collier, un anglais qui est un ovni aussi, qu'on a adoré. Mais il y a plein de, voilà, il y a plein d'artistes qui nous influencent, on n'est pas braqué sur un style, on essaie juste de faire quelque chose de chouette et d'entraînant, quoi.
Et alors vous avez sorti un mini-album, The Take-Off. Comment ça s'est passé, le travail d'écriture, la réalisation ?
En général, c'est toujours entre guillemets le même processus. J'écris les morceaux. Aussi, parfois, ce qui arrive, c'est que mon petit frère, il écrit le début du morceau. Moi, j'écris l'intégralité qui vient ensuite. Il est très fort pour faire les accroches. Donc, on enregistre que à deux, en fait, tous les morceaux enregistrés sur Internet, que ce soit l'EP ou la vingtaine d'autres morceaux, les clips et tout ça. En général, c'est moi qui enregistre tous les instruments, en fait, avec mon frère. On travaille en studio à deux. Moi, je fais beaucoup de violon aussi, à côté de la guitare. Je fais de l'alto, je chante. Donc, j'enregistre les parties de manière audio. Et à côté, on travaille aussi avec de la programmation sur l'ordinateur, etc. Donc, on enregistre tout à deux. Et là, on a écrit les 5 titres, on a laissé un peu le temps de mûrir parce que je voulais vraiment qu'il y ait une certaine continuité dans l'album. À chaque fois qu'on sort un album, on a toujours un peu une direction, un fil conducteur. Malgré le fait qu'on compose dans plein de styles différents et qu'on propose des programmes différents, quand un album sort, en fait, il y a toujours un fil conducteur. Donc voilà, j'ai écrit les morceaux, on a essayé de faire en sorte justement que ce soit un peu une évolution vers le dernier morceau qui s'appelle The Take-Off, le décollage, qui annonce en fait un album plus grand, je dirais pas encore exactement pour quand. Et voilà, et ensuite on a adressé ça à un professionnel également qui a masterisé pour Duran Duran, pour Bryan Adams, etc. sur Londres. Et il a répondu favorable parce qu'il avait beaucoup aimé et on est toujours en contact. Voilà, il nous a masterisé le truc sur Londres et c'est pour ça qu'on est un peu maintenant entre la France et l'Angleterre.
Alors un album qui a mûri, combien de temps pour le réaliser ?
Ça, on va assez vite. Là, celui-là, pour l'écrire et l'enregistrer, on a mis 3 mois. Et puis voilà, après, pour le masteriser, un mois de plus. Donc oui, en 4 mois, c'était bouclé.
Et alors un fil conducteur, lequel ? Le décollage ?
Oui, c'est une métaphore en fait aussi pour dire que c'est notre première EP, donc on compte pas s'arrêter là et on veut garder les pieds sur terre mais avoir la tête dans les étoiles quoi. Donc voilà, c'est le fil conducteur, c'est le décollage, c'est une sonorité très rock. On peut dire c'est un petit peu un mélange entre Police et U2. Je pense que le fil conducteur, c'est le style musical probablement et puis cette énergie très juvénile quoi.
Et alors cet EP, il a une particularité, il est mis en ligne sur les plateformes musicales.
Il est en vente, mais il est aussi en libre écoute. C'est-à-dire que la politique du groupe actuellement, c'est de se faire connaître au maximum, de fournir de la bonne musique aux petites oreilles. Et le truc, c'est qu'on met tout en libre écoute sur Internet pour que les gens puissent écouter. Et comme ça, quand on a des dates ou des choses comme ça, bien, en général, c'est chouette. On joue pas des masses dans la région, mais quand ça arrive, en général, c'est celle qu'on veut.
Les membres de Pavel and Aerosnop ont attiré l'attention de nombreux artistes et ont par exemple été invités dans un festival aux côtés de Birdie.
On a joué juste après Zaz, on était programmé un jour après Gregory Porter, il y avait Jeff Beck aussi qui était là en début d'édition et ça fait plaisir parce que c'est des très bonnes conditions pour jouer, donc c'est très valorisant par rapport à ce qu'on fait et puis on peut donner vraiment le meilleur de nous-mêmes quand on est bien entouré quoi, donc voilà.
Aujourd'hui, est-ce que vous avez d'autres projets ? Peut-être des dates de concerts à venir ?
De mon côté, j'ai pas mal de dates en classique actuellement. Avec le groupe, en fait, là, on est pas mal en... On va avoir des tournages de clips dans les mois à suivre. Il va y avoir aussi des dates qui vont se programmer. Donc tout ça, ça va être affiché sur le Facebook Pavel and Aerosnop. Et voilà, donc vous pouvez nous suivre sur Internet. Et tout ça, ça sera affiché, ça sera actualisé sur les sites. On relaie l'info au maximum, etc.
Alors si on revient un petit peu au début de cette aventure, est-ce que vous auriez des anecdotes à nous raconter ? Des moments qui vous ont marqué ?
Bon, il y a chaque concert, il y a toujours des petits trucs inattendus, quoi. Il nous est arrivé devant 12 000 personnes qu'on nous coupe la guitare, en fait, en fin de set. Donc, dans ces moments-là, on réagit avec sourire, quoi. J'ai posé la guitare, je suis allé danser dans le public. Ouais, j'ai des anecdotes plus c'est plus dans le monde du classique de ce que j'ai fait. Là, c'était pour ma part. Des fous rires sur scène. Là, dernièrement, en fait, j'ai joué à la cathédrale de Chartres. Et en fait, là, on n'avait pas filé le morceau en entier. Bon, ça, c'est même peut-être plus du privé, j'en sais trop rien. Et donc, du coup, le chef a donné le départ pour un mouvement. C'était une œuvre en plusieurs mouvements. Et c'était un mouvement où l'orchestre n'était pas censé jouer, il n'y avait que le chœur qui chantait. Sauf qu'étant donné qu'on n'avait pas répété en entier, on n'était pas prêt à ça. Ce qui fait que j'ai failli démarrer, comme la moitié de l'orchestre. Je ne l'ai pas fait au dernier moment, mais un violoncelliste a démarré, en fait. Le chœur s'est mis à chanter. Et puis on a entendu un... juste un violoncelle. Et il y a eu un fou rire général, en fait, dans l'orchestre. Les gens n'ont pas trop compris, parce que c'est une œuvre dramatique, mais la moitié de l'orchestre était pliée de rire, on pleurait. Et il y a même des gens du public qui sont venus me voir après pour dire « Ah, oh, c'était extraordinaire, etc. » Mais pourquoi est-ce que vous étiez mort de rire dans l'orchestre? Donc ça, c'était un truc vraiment drôle. J'ai pas mal de trucs comme ça en classique.
Et alors, c'est quand même assez étonnant, faire du classique et aussi de la pop, du rock, c'est quand même assez différent.
Quand on essaie de bien faire les choses, ce sont des mondes à part, mais il y a toujours des similitudes, quoi. Il y a la discipline, la volonté de faire quelque chose de bien, le temps dédié à ça. Et là où vraiment c'est proche, c'est dans le fait que, à travers mon cursus classique, moi j'ai fait de l'écriture, etc. Ce qui fait que maintenant, en fait, voilà, je peux arranger pour orchestre, etc. Et j'en discutais d'ailleurs avec, parce qu'en fait j'ai enregistré pour Adamo et Camille au mois de septembre. Et j'en discutais avec l'arrangeur et qui était chef d'orchestre aussi. Et on a une autre vision de la musique quand on a fait de l'écriture. C'est-à-dire qu'on n'a pas tendance à juste jouer sa partie, on capte plus la globalité, en fait, de la chose. Et c'est peut-être une similitude qu'il y a entre le monde classique et le monde de la pop, c'est vraiment le fait, enfin, pour ma part, c'est que maintenant j'aborde la pop. Il y a aussi il y a tout un travail en studio que je n'aurais su faire sans mon cursus classique. Donc quelque part les chemins se rejoignent, en fait.
Alors on le disait, donc la musique c'est une passion de famille.
Exactement, ouais. Mes deux parents sont musiciens, ma maman elle est professeure de piano à Béthune. Mon père il est musicien également professionnel, il est violoniste, il tourne beaucoup en Allemagne. Mes grands-parents étaient musiciens aussi, mes arrière-grands-parents étaient musiciens aussi. Donc on est tombé dedans quand on était petit.
Et vous continuez?
Et je continue, au grand désespoir de mes voisins, mais je continue.
Vous pouvez écouter The Take Off sur les différentes plateformes musicales comme Spotify, Deezer ou encore YouTube. Et pour suivre Pavel en Aerosnop, rendez-vous sur leur page Facebook. Ce reportage a été réalisé par Agathe Doisy de RPL. Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.